Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h30 pile, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, merci d'être avec nous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Des amendes de 150 à 450 euros pour les dealers de drogue qui occupent les halls d'immeubles. Une amende à la place d'une procédure judiciaire, c'est plus rapide, c'est testé à partir d'aujourd'hui dans 6 départements. On va en parler avec Jean-Sébastien Soldaini et avec le procureur de Rennes qui sera en direct avec nous dans un instant. Le petit déjeuner des candidats à l'investiture Les Républicains à la présidentielle. C'était ce matin, on verra avec Alexandre Chauveau ce qui en est ressorti. Un chèque carburant ou une baisse des taxes, toutes les options sont sur la table pour atténuer la hausse des prix des carburants. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal ce matin. En attendant, la grande distribution prend des initiatives pour aider ses clients. On verra ça avec Emmanuel Duteil. On va parler de la taxe foncière pour les propriétaires d'un bien immobilier. Elle a augmenté cette taxe de 28% en moyenne en 10 ans. D'après une étude publiée ce matin par l'UNPI, un représentant de cette union des propriétaires immobiliers sera en direct avec nous. Miss France, c'est sexiste? Mais qui dit ça? Une association féministe qui veut attaquer le concours en justice. On va en parler avec Annie Genevard. Elle est vice-présidente Les Républicains de l'Assemblée nationale. Et puis, comme tous les jours, la tendance météo avec vous, Anissa Haddadi. Parenthèse estivale cet après-midi, hein, la tendance.
Oui, jusqu'à 5 degrés au-dessus des normales de saison, Romain. Cet après-midi, à part quelques rafales de vent du sud, la journée s'annonce estivale avec un soleil radieux. Je vous donne tous les détails à la fin d'Europe Midi.
Europe 1. C'est testé ce matin, à partir de ce matin, dans 6 départements. Quand les policiers arrivent dans une cité avec des dealers qui occupent le hall de l'immeuble, ils pourront désormais les verbaliser. C'est beaucoup plus rapide qu'une procédure judiciaire. On sera dans un instant avec le procureur de Rennes. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
Avec nous sur le plateau. Expliquez-nous déjà comment ça fonctionne.
Bien, c'est très simple. Si vous êtes pris sur le fait, vous ne passez pas par la case procès. L'agent peut vous verbaliser sur le champ. Montant de l'amende, 200 euros. Cela peut descendre à 150 si vous payez sans délai. 450 si le contrevenant tarde. Ça concerne les squatteurs dans les cages d'escalier, les halls d'immeubles, s'ils sont plusieurs, c'est-à-dire au moins 2. Pour être verbalisé, il faudra qu'ils empêchent la libre circulation des personnes ou encore le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité comme les portes coupe-feu, les extincteurs, etc. Peuvent être aussi sanctionnés les choufs, ces guetteurs chargés d'alerter les vendeurs de drogue si des policiers sont repérés. Alors 150 à 450 euros, le montant ne paraît pas énorme quand on sait que certains dealers gagnent plusieurs milliers d'euros par mois. Autre limite, impossible de sanctionner un mineur de la sorte. Or, la plupart des guetteurs ont moins de 18 ans. Là où cela peut être plus dissuasif, c'est que cette AFD, amende forfaitaire délictuelle, entraîne une inscription au casier judiciaire. Le dispositif est testé à Rennes, à Créteil, à Lille, Marseille, Foix, Reims, avant d'être étendu à tout le territoire au premier trimestre 2022.
Jean-Sébastien Soldaini, merci Jean-Sébastien. On est en direct avec le procureur de Rennes, Philippe Astruc. Bonjour Philippe Astruc.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous dans Europe Midi pour nous expliquer cette amende forfaitaire, les bienfaits, enfin en tout cas les avantages. Quel est l'intérêt de ces amendes? Qu'est-ce qui va changer?
Si vous voulez, les amendes forfaitaires délictuelles, ça permet un traitement rapide et efficace de procédures simples. Ça existe depuis fin 2018. On en a déjà 350 000 verbalisations sur 4 délits. Le dernier, vous vous en souvenez, c'était l'usage de stupéfiants. Et là, les deux ministres de l'Intérieur et de la Justice nous demandaient d'expérimenter de nouveaux délits, dont celui que vous venez d'évoquer. Donc ça vient compléter le dispositif des réponses pénales pour ceux qui reconnaissent les faits, qui sont majeurs. Donc ça évite, ça permet d'avoir une sorte de justice de proximité, de rapidité de la réponse pénale. Voilà, c'est ça l'objectif global.
Alors, pour les policiers, une question, est-ce que ça va être plus simple? Est-ce qu'ils vont avoir la certitude que leur action sera plus efficace que s'ils engageaient une procédure judiciaire, par exemple?
Moi, je crois qu'il faut mettre, je dirais, les deux fers au feu, c'est-à-dire que nous, on va procéder à des procédures classiques, hein, avec des surveillances policières, des constatations qui nous permettent de verbaliser, soit en procédure classique, soit lorsque les conditions sont réunies, un majeur qui reconnaît les faits. En AFD, ça va beaucoup plus vite. Et puis la sanction, il y a un intérêt pour le contrevenant, c'est que la sanction en termes d'amende est moins élevée que s'il s'agissait d'une procédure classique. Donc finalement, ça permet surtout l'objectif, c'est d'essayer d'apporter une réponse concrète, rapide, à un problème que nous avons, par exemple, sur Rennes, en gros, entre 5 et 10 escaliers, qui nous pose problème avec des groupes qui squattent, comme vous dites, qui occupent illicitement ces halls d'immeubles, notamment pour faire du trafic de stupéfiants.
Vous précisez, pour un majeur, ça veut dire qu'on ne peut pas dresser une amende pour un mineur?
On ne peut pas faire une procédure d'amende forfaitaire délictuelle pour un mineur, mais on peut tout à fait, et c'est les instructions que j'ai données, dresser une procédure classique. Donc voilà, c'est en complément, ce n'est pas à la place. L'amende forfaitaire délictuelle n'a pas remplacé la procédure classique. On a les deux leviers, donc on utilise l'un ou l'autre selon les circonstances.
Merci beaucoup, monsieur le procureur. Merci à Philippe Astruc, procureur de Rennes, d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Il est 12h35.
Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.
Les 6 candidats à l'investiture Les Républicains pour la présidentielle ont pris le petit déjeuner ensemble. Le parti a tweeté sur les réseaux sociaux une jolie photo où les 6 candidats sourient évidemment. Il y a en plus Christian Jacob, le président des Républicains. Au-delà de l'image, Alexandre Chauveau avec nous. Alexandre, qu'est-ce qui en est sorti de ce petit déjeuner?
Alors, on pourrait dire une promesse de rassemblement, c'est vrai, mais personne n'est dupe autour de l'opération de communication orchestrée par le président du parti, Christian Jacob. Aucune décision concrète n'a été prise, même si les candidats ont bien discuté des débats télévisés notamment. Mais l'important, c'était de se réunir et surtout de le montrer aux militants d'abord et aux Français plus largement. Christian Jacob souhaite à tout prix chasser les démons de la division dans une famille politique qui s'est souvent déchirée ces dernières années. Ceux qui pensent que ça va être la bagarre en auront pour leurs frais, a prévenu Xavier Bertrand à l'issue de la réunion.
Alors, et puis dans la foulée, Valérie Pécresse a donné une conférence de presse sur le bilan d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il faut en retenir?
Eh bien que maintenant, la cible, c'est le président sortant et personne d'autre. Hier soir, sur notre antenne, Valérie Pécresse appelait, je cite, à débusquer Emmanuel Macron. Elle a récidivé ce matin face à la presse, réduisant le chef de l'État au rang de communicant. À force d'être ni de droite ni de gauche, on finit par ne rien penser, lâche la candidate, qui a fustigé le bilan économique, éducatif et sécuritaire du chef de l'État. En fait, la présidente de l'Île-de-France souhaite répondre à ceux qui l'accuse d'être Macron compatible, elle dont le nom a déjà été cité lors du dernier quinquennat pour prendre le poste de Premier ministre. Il a les mots de la droite, mais il n'en a pas les actes, conclut Valérie Pécresse, qui envoie là un signal aux électeurs des Républicains partis chez Emmanuel Macron en 2017.
Merci beaucoup Alexandre Chauveau pour toutes ces informations. Les prix des carburants volent de record en record. Vous payez aujourd'hui en moyenne le litre de gasoil 1,57€, le litre de sans-plomb 95, 1,66€. Gabriel Attal a laissé entendre ce matin que toutes les options étaient sur la table pour atténuer les effets de ces hausses auprès des Français les plus modestes. Emmanuel Dutheil, chef du service éco économie d'Europe 1. Pendant que le gouvernement réfléchit, la grande distribution agit et prend les devants, hein.
Oui, hein, et ce n'est pas du tout un hasard, le carburant est un produit d'appel très important pour la grande distribution. C'est là, hein, que la plupart des Français se fournissent. La grande distribution représente plus de 60% de la vente des carburants en France. C'est pour cela qu'elle vend ses carburants environ 10 centimes de moins que dans les stations classiques. Il était donc urgent de faire un geste pour envoyer un signal aux consommateurs. Leclerc, très habitué des opérations choc, lance donc à coups de pleine page de pub le carburant à prix coûtant jusqu'à la fin du mois. Carrefour, lui, lance une remise sous forme de bon d'achat de 5€ en caisse pour chaque plein d'au moins 25 litres. Ça commence demain et là aussi, ça va durer jusqu'à la fin du mois. Lidl, lui, n'a pas de station-service, mais il a décidé de rogner sa marge sur une partie de ses produits pour tenter, là aussi, de répondre aux aspirations des consommateurs. Tout ça, c'est une manière de répondre au gouvernement qui a demandé aux distributeurs, notamment qui ont des stations-service, de faire un effort. En attendant, cette fois, le chèque carburant du gouvernement, les annonces devraient intervenir d'ici à la fin de la semaine. Une idée qui semble simple sur le papier, mais compliquée à mettre en place, nous disait hier Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.
Merci beaucoup Emmanuel. Il est 12h39. Restez bien avec nous sur Europe 1. Dans Europe Midi, dans un instant, on sera avec Christopher Demerson, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. On va parler de cette taxe foncière dont le montant a explosé, hein, faut le dire. Faut dire les choses comme elles sont. Plus 28% depuis 10 ans. A tout de suite.
Europe Midi.
Romain Desarbres. Il est 12h42, on va parler de la taxe foncière. Elle a augmenté, accrochez-vous, de 28% en 10 ans. Comment ça s'explique? C'est une enquête de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, qui donne ce chiffre et on est en direct avec le président de l'UNPI. Bonjour Christophe Demerson.
Bonjour Romain Desarbres.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Europe Midi. Vous savez que vous allez intéresser énormément d'auditeurs, je vous le dis. Comment ça s'explique cette hausse de 28% en 10 ans de la taxe foncière en moyenne, hein ?
Ben, ça s'explique en réalité que c'est un peu la solution de facilité pour les maires et les collectivités locales. C'est vrai d'un autre côté qu'il faut toujours plus d'argent. Et c'est vrai qu'il y a la suppression de la taxe d'habitation qui entre maintenant en jeu et qui va rebattre les cartes. Et c'est vrai que tout ça, c'est beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'argent. Et les propriétaires, ils mettent la main à la poche. Et pour vous dire, par exemple, là, les propriétaires, cette année, ils ont mis la main à la poche pour 35 milliards d'euros. Il y a 10 ans, c'était 23 milliards d'euros. Vous voyez, si on parle en euros sonnants et très différents. 35 milliards d'euros.
Ça veut dire qu'il y a un effet vase communicant, un peu moins de taxes d'habitation, enfin même une suppression de la taxe d'habitation pour une majorité de Français, et puis une hausse du coût de la taxe foncière que payent uniquement les propriétaires.
Hein. Alors, si on répond, il faut décortiquer votre question, Romain Desarbres, parce qu'en réalité, si on regarde, là c'est seulement 20%. Des propriétaires plus riches qui continuent à avoir un abattement cette année de 30% et puis qui auront 65% d'abattement l'année prochaine sur cette taxe d'habitation. Mais quand on regarde en détail, ces 20% les plus riches, ça commence à 2400 euros par mois. Oui. Si vous voulez. Donc tout dépend où on met le seuil de la richesse, parce qu'à 2400 euros par mois, on ne peut pas dire que ce soit des très gros propriétaires fonciers. Des grands argentiers.
On est d'accord.
Et pour ça, ils mettent la main au porte-monnaie sérieusement.
Est-ce qu'il y a des villes qui ont eu la main plus lourde que d'autres pour augmenter la taxe foncière ?
Ah ben, si je vous citais le podium, je vous dirais des métropoles, je vous dirais sans surprise, hein, c'est toujours Nantes. Et Nantes, si on regarde, là, c'est 37% de hausse. Ouais. Si on regarde ces villes urbaines, c'est Clermont-Ferrand, c'est Lille, vous voyez, c'est des villes qui ont lourdement sollicité les propriétaires. Et c'est vrai que nous, on est inquiets parce que jusqu'où ça va aller, je pense qu'il faudrait que tout le monde se calme et qu'on trouve une solution ou au moins une règle d'or pour stabiliser tout ça. Et je veux dire, l'État a été capable d'encadrer les loyers. Ben moi, je propose tout simplement, l'UNPI, nous qui défendons les propriétaires, on propose tout simplement que ce soit les taxes foncières qui soient encadrées, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est 2,3 mois en moyenne de loyer pour une taxe foncière, donc vous voyez que c'est quand même énorme. Et quand on dit 2,3 mois, si vous avez été à Nantes, ça fait plus que ça, donc ça fait quand même beaucoup d'argent tout ça.
L'encadrement des taxes foncières, de la taxe foncière, demande le président de l'UNPI sur Europe 1 dans Europe Midi. Merci beaucoup Christophe Demerson, merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. On parlait il y a quelques instants du prix de l'essence, on va parler des voitures à présent. Sachez que les constructeurs de voitures sont frappés par un mal qui est rageant, on peut le dire pour eux. En tout cas, il leur manque des pièces et notamment des cartes électroniques, alors que la demande est là, les clients sont là. S'ils avaient ces puces, il vendrait des voitures. Aurélien Fleureau avec nous du service économie d'Europe 1. C'est fou, c'est une crise inédite, hein.
Oui, c'est vrai que c'est une crise inédite hein, par son impact aussi durable. Cela fait maintenant des mois que les lignes de production marchent au ralenti et l'approvisionnement en semi-conducteurs ne s'est pas amélioré, notamment parce que la situation sanitaire s'est détériorée en Malaisie, hein, où se trouve l'un des plus grands producteurs de ces puces électroniques qui servent aussi bien pour le système ABS que pour les tableaux de bord numériques. Du côté de Renault, après Flins, Douai et Dieppe, ce sont donc les usines de Sandouville et de Batilly qui sont à l'arrêt. Les carnets de commandes sont pourtant pleins et comme chez tous les constructeurs, Stellantis, Toyota, c'est une gestion quotidienne de la pénurie selon les pièces disponibles et qui se mettent en place de manière durable.
Aurélien, il y a des usines de voitures neuves donc à l'arrêt. Du coup, si on veut acheter une voiture, on se rabat sur les voitures d'occasion.
Oui, effectivement, c'est l'occasion qui profite de cette baisse, là aussi durable, des ventes sur le marché du neuf, encore moins 23% sur un an en septembre. Et ce sont environ 3 millions de véhicules qui ne seront pas produits en Europe en 2021. Et les clients à qui l'on annonce des délais de plus de 6 mois se tournent donc vers ces offres d'occasion récentes, reconditionnées, comme le constate Romain Baucher, directeur général d'Aramis Auto en France.
Les clients qui viennent nous voir aujourd'hui, ils se tournent vers nous parce qu'on a une offre alternative qui est parfaite pour eux, qui sont les véhicules d'occasion reconditionnés. Ce sont des véhicules récents, peu kilométrés, qui sont du coup équipés technologiquement comme les véhicules neufs qui sortent aujourd'hui des usines.
C'est une tendance de fond, hein. Les usines de reconditionnement se multiplient en France, que ce soit Renault à Flins ou de la part du groupe Émile Frey dans la Vienne et bientôt à Lens, ce sera au printemps prochain.
Merci beaucoup Aurélien pour toutes ces informations. C'est vrai que c'est une situation qui pourrait durer quelques mois encore. Il est 12h47.
Europe Midi. Romain Desarbres vous informe sur Europe 1.
Le procès des attentats du 13 novembre 2015, quatrième semaine de témoignages des victimes et de survivants. Trouver de l'humanité au milieu des morts du Bataclan, l'humanité qui renaît malgré tout, malgré l'horreur. C'est un témoignage que vous allez entendre, celui de deux rescapés qui se sont parlé et qui sont devenus amis. Cette naissance est née au milieu des corps, des victimes. Ils s'appellent David et Stéphane et témoignent au micro de Gladys Laffitte.
Je rencontre Stéphane durant la prise d'otage au Bataclan. Je me rappelle, quand je vois Steph, je me dis, y a un mec en costard. C'est un des trucs qui, derrière, m'a poussé à le rechercher aussi, parce que je me suis dit, mais c'est qui ce gars en costard dans un concert de rock? Et t'avais ta casquette ce soir-là?
Bah non, je sortais du boulot.
Mais je sais pas, t'as tout le temps ta casquette maintenant.
Bah oui, mais pas quand je vais au boulot.
Ok. Et je m'appelle David et j'ai 29 ans.
Je m'appelle Stéphane, j'ai 54 ans. On s'est d'abord touchés avant de même se voir, puisque quand on arrive dans le couloir, David me prend la main et il me dit « ça va aller ».
En fait, je me suis dit « comment je peux passer 2h30 à côté de quelqu'un sans le toucher ?» Je me demandais s'il avait une famille, je me demandais ce qu'il faisait dans la vie et tout. Et je voulais me rapprocher de l'humain, en fait.
Dans la foulée, j'avais aussi besoin de retrouver les gens qui avaient vécu la même chose parce que c'était tellement pas crédible qu'il fallait que j'échange avec ces otages. Comme une famille, on ne s'est pas choisi puisqu'on était tous là par hasard. Et donc, c'est un peu des gens qu'on aurait choisi pour la puissance de ce qui nous unit. On n'a pas besoin de se donner des preuves de cet amour, parce que finalement, c'est un peu plus que de l'amitié.
Et aujourd'hui, on est passé à autre chose, entre guillemets, vis-à-vis de l'événement, qui fait qu'aujourd'hui, on a une relation amicale qui est très forte, en fait.
Il y a quand même quelque chose qu'on a en commun avant même cette aventure, c'est le rock'n'roll, le live.
Oui, t'as raison.
Et en l'occurrence, ça nous définit quand même un peu. Ce procès, il est addictif aussi parce qu'on retrouve des gens avec lesquels on partage beaucoup de choses. Et donc, on a envie de les voir, on a envie d'être à côté d'eux, de discuter avec eux. Et en même temps, le contexte est un peu particulier, un peu dramatique. Mais il y a quand même cet aspect plutôt positif. En tout cas, moi, je le perçois comme ça.
Moi, savoir que je ne me tiens pas seul, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Je ne me tiens pas seul dans la salle d'audience que... Ouais, je sais qu'il est là, quoi.
Voilà, une amitié qui est née au milieu de l'horreur. Il est 12h50. Merci d'être avec nous sur Europe 1, dans Europe Midi. Dans un instant, on va parler des Miss France. Les Miss France attaquées par une association féministe. On va être en direct avec la vice-présidente, une vice-présidente de l'Assemblée nationale, Annie Genevard. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h53, le Tour de France a été attaqué, le sapin de Noël a été attaqué. C'est au tour d'une autre institution, les Miss France, d'être attaquées devant la justice prud'homale. Selon l'association Oser le Féminisme, ce concours serait sexiste et discriminatoire. Et oui, pour s'inscrire, il faut être une femme, célibataire, mesurer plus d'1m70. Annie Genevard, bonjour, Madame la députée.
Bonjour.
Les Républicains du Doubs. Vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je voulais vous entendre sur... cette information qui fait beaucoup réagir. Est-ce que selon vous, le concours des Miss France est sexiste ?
Moi, je considère que le féminisme a permis des libertés supplémentaires. Le féminisme tel que je le connais n'est pas celui qui interdit, mais celui qui fait progresser les droits des femmes en matière de rémunération, en matière de parité, en matière d'accès à la contraception, enfin bref, toutes les grandes luttes des femmes pour leur liberté. Et je dois vous dire que je ne me reconnais guère dans ce combat. Et j'ajouterais même que les féministes, nous les attendons sur des sujets autrement plus importants que sont les libertés, la liberté des femmes qui aujourd'hui sont empêchées d'accéder au savoir, à l'espace public, sur le voilement des fillettes, bref, sur toutes ces libertés fondamentales qui sont, y compris dans notre pays, l'objet aujourd'hui d'attaques.
Vous dites qu'elles ont des combats à géométrie variable, en clair. Vous pensez que c'est un combat politique, en réalité, plus qu'un combat de défense des femmes?
C'est un combat. Elles ont trouvé, je dirais, un biais pour faire parler du féminisme. Mais j'aurais voulu les entendre sur l'affaire Mila, par exemple, où elles ont joint leur voix à ceux qui condamnaient le blasphème. Donc, voilà, il y a des combats fondamentaux. Je ne crois pas que lutter contre le concours de Miss France soit de première priorité pour les libertés des femmes. Je ne le crois vraiment pas.
Annie Genevard, merci beaucoup, vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée Les Républicains du Doubs. Merci d'avoir réagi dans Europe Midi. C'est un sujet qui, je le sais, vous fait beaucoup parler, évidemment. Le football avec PSG Leipzig ce soir en Ligue des Champions. Ça sera à suivre sur Canal+ à partir de 21h ou sur Europe 1 en fil rouge. Ça sera sans Neymar, hein, attention, qui est blessé. Et puis le temps, il y a la petite musique de la météo, voilà, qui était partie un petit peu vite. Il fait beau cet après-midi. Midi, Anissa Haddadi. Hein.
Oui, et il va falloir en profiter puisque cette parenthèse ne va pas durer, hein, malheureusement. Alors avant le retour de la pluie, des rafales de vent et de la baisse des températures prévues pour demain, cet après-midi, c'est le soleil qui domine sur le Languedoc-Roussillon. Nous avons quelques nuages épais qui s'accrochent. Ce sont les résidus, hein, des entrées maritimes de ce matin. Mais enfin, rien d'inquiétant. Juste un ciel un petit peu plus gris. Partout ailleurs, il fait très beau. Le vent de sud souffle. Il est très présent. Il souffle dans la vallée du Rhône, des Pyrénées jusqu'au Golfe du Morbihan, hein, tout le long des côtes atlantiques, et puis sur les côtes de la Manche, entre la Bretagne et les Hauts-de-France, voilà, on a des rafales jusqu'à 50 km/h. Les températures, elles sont douces, je vous le disais en début de journal, jusqu'à 5 degrés au-dessus des normales de saison. On a 19 degrés à Brest et Belfort cet après-midi, 20 degrés pour Montpellier et Colmar, 21 à Nice, Aurillac et Lille, 22 pour Toulon et Dunkerque, 23 degrés à Paris, Marseille et Ajaccio, 25 à Bourges, 27 à Mont-de-Marsan et Bordeaux, et 28, la maximale pour Saint-Jean-de-Luz ou encore Biarritz.
Merci beaucoup Anissa. Il est 12h56, dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Très bel après-midi sur Europe 1, à demain.